Alors, ce petit film, il est sympa, mais il va vachement vite. Hein. Les questions-réponses, on vous propose de peut-être repasser un peu, mais très vite fait, parce qu'on ne va pas faire toute l'histoire du Mexique en 20 minutes, on ne pourrait pas. Mais voir pourquoi les indigènes en 94 ont créé Yabasca devant le monde entier et se faire un petit rappel quoi, historique. Bon, déjà le Mexique, bon, le Yabasca il vient des Zapatistes. Zapatistes, c'est un hommage à Zapata. Zapata, c'est un des chefs révolutionnaires de la grande révolution mexicaine de 1910-1917. Et c'est pas un hasard. Bon, Zapata a été assassiné, évidemment, comme tous les vrais révolutionnaires, au moins au Mexique, parce que là, alors là, ça a tourné, hein, niveau assassinat. Mais c'est au moins celui qui a dit « la terre est à ceux qui la travaillent ». Voilà, donc il y avait carrément un plan de répartition des terres. Pourquoi ? Parce qu'au début du XXe siècle, nous vivons encore dans une société complètement coloniale au Mexique. La colonie, ça commence en 1519. Cortés, les Espagnols ont conquis le Mexique. On massacre pas mal d'indigènes. Pas mal ne se sont pas soumis, notamment au Chiapas. Certains ont préféré se suicider par peuple entier à l'arrivée des Espagnols. Mais bon, toujours est-il que les Espagnols ont pris le pays. Et situation coloniale jusqu'en 1821. Ou 24, excusez-moi, hein, je n'ai pas révisé, 21 je crois. Et mais même quand l'indépendance arrive, ce n'est pas les indigènes qui ont le pouvoir, c'est les Espagnols, enfin les gens d'ascendance espagnole qui sont nés sur le pays, ce qu'on appelle les criollos, qui prennent le pouvoir. Et qui reproduisent une situation coloniale. Alors la colonie, ça s'était construit grâce aux encomiendas. On remerciait les conquistadors, en leur donnant des terres, des kilomètres et des kilomètres carrés avec les gens qui habitaient dessus. Et ça s'appelait encomiendas parce qu'on recommandait à ces gens-là, à ces conquistadors, qu'on allait remercier de leur effort de conquête, on leur redonnait ces terres, donc l'exploitation, et avec les Indiens qui avaient dessus, les indigènes qui avaient dessus. Et ces indigènes, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, ils n'avaient qu'une contrepartie assurée, c'était qu'ils devaient les traiter en bon père, très paternaliste, et les traiter en bon père, c'était les évangéliser, tout simplement. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça, une situation qui est super vieille de 1519, c'est parce que quand il y a eu l'indépendance, cette situation a perduré, sauf que les maîtres n'étaient plus des Espagnols nés en Espagne, ça devenait des Espagnols nés au Mexique, ou en Colombie, ou c'est surtout le continent, quoi. Voilà. Cette situation perdure, avec des gens au pouvoir qui s'enrichissent, qui circulent, voilà, des coups d'État, tout ça, tout le 19e siècle, et révolution en 1910. En 1917, cette révolution se termine, on est censé avoir une répartition des terres, une nationalisation des richesses, un sol, un sous-sol qui appartiennent à la nation mexicaine, donc pas privé, des terres qui ne sont pas privées officiellement sur le papier, tout appartient à la nation. Voilà, ça c'est important parce qu'on le revend en 94. Sauf que, évidemment, ça ne se passe pas comme ça, et notamment dans les États reculés, qui sont tous les États du Sud. On vous a mis une carte du Mexique, là. C'est que le Chiapas. Bon, le Mexique, c'est quatre fois la France, et le Chiapas, ça doit être un tiers de la France. C'est le dernier État, c'est un État fédéral, le Mexique, qui est presque en Amérique centrale, qui est au nord du Guatemala. Voilà, alors il y a quelques États qui sont beaucoup plus pauvres que les autres. Il y a le Guerrero, il y a Oaxaca, vous avez peut-être entendu parler avec les séismes qu'on a eu cet automne, et le Chiapas. Toute cette ceinture, et comme par hasard, c'est les plus pauvres, mais c'est ceux qui sont les plus indigènes. Alors c'est un peu compliqué ce mot indigène aussi. Déjà, nous on a un peu l'habitude d'appeler ça indien, parce que ça part de l'erreur historique de Christophe Colomb qui croit arriver aux Indes occidentales, mais le terme est resté indien. Les indigènes sur place, ils disent « nous, on est des indigènes, on n'est pas des indiens, on est des indigènes ». Voilà. Indio, c'est vu comme un peu la façon dont on parlait d'eux, les ladinos, les blancs, c'est c'est un peu une insulte au départ, quoi. Voilà. Donc eux, ce sont des indigènes, ce sont des autochtones, comme nous, les indigènes d'ici, etc. Voilà. Et alors, indigènes, on continue à appeler indigènes les gens qui ont gardé leur culture. Parce qu'en fait, au Mexique, on pourrait dire que c'est un pays très métissé, en fait. Il y a un grand mélange de blancs, d'indigènes, voilà. Et ce qu'on appelle indigènes, c'est pas une question de 100% pur sang, quoi. C'est une question qu'on a gardé notre langue. Il y a 64 langues indigènes encore parlées au Mexique. C'est des langues qui montrent que la culture est complètement vivante. Il y a pas mal de régions, elle le disait dans la voix du film, on ne parle pas espagnol. Alors évidemment, il y a des gens qui parlent espagnol et plus leur langue indigène. Il y a beaucoup de femmes qui, à 20 ans, ne parlaient pas du tout espagnol, ne parlaient leur langue indigène. Alors ça peut être du Tzotzil, du Tzeltal, du Tohalabal, je ne vais pas vous faire les 64, hein, il y en a un paquet. Voilà. Bon, dans le Chiapas, on est dans l'ascendance maya, toute cette culture maya, quoi. C'est les Aztèques, c'est plus haut, c'est vers Mexico. Voilà. Je suis partie de quoi pour dire ça ?
L'histoire.
Oui, l'histoire, bien sûr. Bon.
On en est au plan. La terre appartient à
tous. Oui, la terre appartient à tous. Donc voilà, la terre appartient à la nation. Sauf que, ben évidemment, vous savez bien, il y a les révolutions, puis une fois qu'on a le pouvoir, et ben on a le pouvoir, quoi. Donc on s'enrichit, tout ça. Et c'est-à-dire que la révolution met énormément de temps à s'appliquer. Parce que on a des gens à vide de pouvoir qui sont de pouvoir, comme d'habitude, quoi. Bon, on a un petit progrès dans les années 40 avec un président qui s'appelait Cárdenas, et qui a justement commencé cette répartition des terres, voilà. Sauf que ce genre de choses n'est jamais arrivé dans les États du Sud. C'est ce progrès sur la répartition, sur la... voilà. Et si ça progressait plus au Nord, pas du tout au Sud. Au Sud, on est vraiment dans ce Sud du Mexique. Voilà, on est plus dans les indigènes. Et les indigènes, et ben les indigènes... Pour les gens qui sont au pouvoir, c'est souvent des êtres inférieurs. Voilà. Donc, quand en 1994, les indigènes s'organisent et disent « Ya basta », déjà, ça fait 10 ans qu'ils s'organisent. Bon, après, il s'est passé plein de choses. Hein. Il y a eu 68, tout un mouvement, il y a eu tout un tas de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que ça serait trop long. Quand en 94 les gens disent « Ya basta », on est dans une situation où au Chiapas, les pouvoirs sont hyper concentrés, pouvoir économique, politique, et c'est le pouvoir des familles. Quelques familles possèdent tout, des haciendas énormes, alors on appelle plus ça des encomiendas, sauf que c'est exactement la même chose, sauf que maintenant on s'en fout un peu de les évangéliser, de tout ça. Donc les haciendas, vous avez un système où les gens vont travailler, par exemple, 3 semaines pour le patron, et 1 semaine pour eux, il y a un petit lopin qui leur est préparé, qui leur est réservé. Et quand ils ont le temps, ils vont un peu travailler leur terre pour auto-subvenir à leurs besoins. S'ils ont besoin de choses en plus, eh ben, il y a la tienda de raya. Alors la tienda de raya, c'est la petite boutique qui appartient au patron. Alors le patron, il vous paye en papier, en papelitos. C'est les papelitos, des petits papiers roses. Et vous allez payer, on ne vous paye pas en argent. Vous allez payer à la boutique du patron, enfin au magasin du patron, pour acheter ce dont vous avez besoin. Et évidemment, on a introduit l'alcool, parce que l'alcool, ça casse le peuple. Et voilà, et les papiers ne suffisent pas à payer la consommation d'alcool à force. Et du coup, vous êtes endetté de père en fils, etc. Et les gens s'attachent à la terre, et c'est juste un esclavage déguisé. L'esclavage est interdit au Mexique. Il me semble bien que ça a été interdit avant la France, hein, l'esclavage au Mexique. Mais toujours est-il que ça a quand même perduré de façon un petit peu déguisée, quoi. Voilà, donc... En 1994, apparaît une armée encagoulée ou avec un foulard, des indigènes, et qui prennent, dans la nuit du 1er janvier 1994, 5 villes de Chiapas, qui la prennent avec les armes. Pourquoi le 1er janvier 1994? Parce que c'est l'entrée en vigueur des accords de l'ALENA, les accords de libre-échange nord-américain, Mexique, États-Unis, Canada. Et ces accords font rentrer le Mexique dans le monde moderne, dans le monde libéral. Mais pour que le Mexique rentre dans le monde libéral, il faut abandonner deux, trois trucs. Et notamment, l'article de la réforme agraire, l'article 27 de la réforme agraire, qui disait que la terre appartenait à la nation. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, les terres deviennent cessibles, vendables. C'est-à-dire qu'on peut vous les arracher, vous pouvez les vendre, vous pouvez avoir des pressions pour que la terre soit vendue, etc., etc. Et ça, ça devient juste insupportable. Juste insupportable. Alors, très peu d'indigènes étaient propriétaires de terres. On a le système des grandes haciendas et on a un système qui date de l'époque de l'indépendance, qui est un système d'ejidos. Les ejidos, alors on n'a pas d'équivalent ici, mais c'est plus ou moins comme des terres communales où les gens gèrent, alors ont un droit d'exploitation d'un bout de ces terres communales, mais ils ne pourront jamais les vendre, c'est pas à eux. Par contre, si une famille a des terres, après ça peut être transmissible de père en fils. Bon, mais d'un coup, le monde libéral arrive en janvier 1994, et tout ce système ou des ejidos ou de petites propriétés dont tout le monde ne profitait pas, parce que beaucoup étaient encore péones, esclaves dans les grandes haciendas, tout ça peut disparaître, parce qu'on arrive dans un monde moderne où droit à la propriété privée. Droit à la propriété privée, ça veut dire droit aussi à se faire expulser de sa terre, quoi.
Ça veut dire qu'avant, c'était le droit d'usage qui prévalait sur le droit de propriété. Et ça, c'est fondamental par rapport au soulèvement autochtone.
Voilà, donc ils choisissent cette date pour se soulever et dire « ça suffit, ça suffit ». Et les premières demandes qui sont mises en avant en janvier 1994, on n'en est pas encore à des discours sur l'autonomie, c'est alimentation, droit à ne pas crever de la maladie, droit à être des êtres humains, des choses comme ça, quoi. Voilà. Et étonnamment, en janvier 1994, il y a quelques jours de combat, parce qu'en fait, les apatistes arrivent de leur village, alors qu'ils sont ou dans les montagnes, ou dans des vallées, dans la forêt, ils vont tous dans les villes les plus proches. Alors, il y a San Cristobal, que vous connaissez peut-être si vous êtes allé au Mexique, c'est une ville très touristique aujourd'hui. Il y a Ocosingo, il y a Comitán, il y a Altamirano, et Las Margaritas. Ils arrivent, sauf que quelques-uns ont des vraies armes, les autres ont des fusils en bois. Mais en fait, on s'y attend tellement pas qu'en fait, avec leurs fusils en bois, ils font peur aux garnisons. Et ils prennent les villes. Évidemment, répression militaire immédiate, des jours de combat, des morts. Et ça ne dure pas très longtemps, parce que pourquoi ? Il y a la société civile mexicaine qui se réveille. La société civile mexicaine qui est un peu endormi par un parti au pouvoir qui est au pouvoir depuis 1917, jusqu'en 1994, c'est toujours le même. D'où une démocratie un peu douteuse quand même. Mais ils ne sont pas si endormis que ça, parce que quand il y a eu un tremblement de terre dans les années 80 monstrueux à Mexico, l'État n'a rien fait. C'est la société civile du Mexique qui a organisé les secours, qui a tout organisé. Mais d'un coup, il y a comme un réveil. Ah bon, mais il y a des indigènes au Mexique. Et on croyait que ça n'existait plus, que c'était de l'histoire ancienne. Et en fait, il y a tout un réveil de « Ah bon, il y a des gens qui existent et qui vivent comme ça et qui sont indigènes. » Et du coup, il y a un énorme mouvement dans les villes, Mexico, tout ça, qui disent « Non, non, halte à la répression, laissez-les dire, quoi. » Bon, évidemment, les apatistes rentrent dans leur village, hein, ils ne supportent pas le conflit armé, vu qu'eux, ils ne sont même pas armés. Et donc ça, c'est le ZLN, Armée Zapatiste de Libération Nationale, et s'entament des dialogues qu'on appelait les dialogues de San Andrés. Alors avec des commissions de médiation entre gouvernement zapatiste, des commissions de la société civile. Il y en avait deux au départ. La COCOPA, qui était un peu avec des représentants politiques, des politiques connus, et autrement la CONAI, qui était un peu menée par Samuel Ruiz, qui était l'évêque de San Cristóbal. Alors l'évêque, ça nous fait bizarre vu d'ici, mais là-bas, il y a un courant qui s'appelle la théologie de la libération, qui, au lieu de dire « Vous êtes malheureux, mais tant mieux, vous serez les plus heureux dans le royaume de Dieu, hein, les derniers seront les premiers, tout ça », ils disent « Hop, 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 il n'y a aucune raison que vous soyez plus malheureux que les autres, quoi. Donc allez-y, organisez-vous, et voilà ». Cette théologie de la libération a eu pas mal de victimes, hein, dans Salvador, enfin, cette église-là, l'église rouge, a beaucoup soutenu les organisations, quoi. Voilà. Bon, donc, des commissions, voilà, bon, les politiques, ils vont vite dégager, et au bout de... une loi aussi pour dire, pour parler, pour faire des accords de paix. On dit que statu quo, les militaires restent dans leurs casernes, les apatistes dans leur village. Sauf que ça a été très vite rompu. En 95, l'armée est rentrée dans tous les villages. Les villages se sont enfuis et eux, ils disent « en el monte », ça peut être la forêt, ça peut être la montagne, ça peut être... ils sont allés vivre ailleurs, quoi. Ce qui a été un gros traumatisme, d'ailleurs. Dans l'ACMA, les accords ont repris, et ont été signés. Et les accords de San Andrés, ce qui est super intéressant, c'est que ça déclare l'autonomie des peuples indigènes. Déjà, leur existence, et en plus leur autonomie.
Le respect de leurs us et coutumes. Mais pas seulement aux indigènes, ça concerne aussi toute communauté. Donc dès le départ, les apatistes ont voulu, non pas parler que par rapport à leur histoire indigène, mais par rapport au Mexique dans sa globalité, et à toutes les communautés, puisque ça vit encore beaucoup en communauté, qu'on ait du sang indigène ou pas, quoi. Voilà. Ça, c'est particulier aux accords de San Andrés.
Voilà, ce qui n'a pas été mis en évidence tout de suite, d'ailleurs, quoi. Sauf que pour appliquer ces accords de San Andrés qui ont été signés, il faut un changement de la Constitution mexicaine, parce que la Constitution mexicaine ne reconnaît pas l'existence de plusieurs peuples sur son territoire. Donc il fallait un changement de la Constitution. Donc ces accords qui ont été signés n'ont strictement jamais été appliqués. Il y a eu une marche des indigènes apatistes vers la capitale, la marche de la Terre. Alors ça c'était en 2003.
Avant 2001.
Excusez, ça commence à être vieux tout ça, quoi. 2001, 2003, après tout c'est pas très grave, quoi. Et ils sont allés jusque devant le Parlement mexicain et pour exiger ce changement de constitution pour enfin appliquer ces accords de San Andrés qui datent de 1996. Et non, ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé, les apatistes? Eh bien, ils ont décidé, ok, et bon, on va s'appliquer tout seul. Et donc, l'armée apatiste s'est mise en retrait. Parce que de toute façon, elle était née pour ne pas avoir existé. Leur but, ce n'était pas d'avoir une armée, une force armée. C'était surtout pas d'avoir le pouvoir au Mexique non plus. Et se sont créées les régions autonomes avec leurs caracoles. Leurs caracoles qui sont... Alors les caracoles, ça veut dire escargot. C'est pour reprendre cette image de la spirale. C'est juste l'inverse de la pyramide où on a un chef et une base. Non, un caracol, ils sont tous à un même niveau, puis on avance petit à petit, voilà. Et le caracol est le siège des juntas de buen gobierno, les assemblées de bon gouvernement. Alors il y a une espèce de rhétorique zapatiste quand même, voilà. Et les juntas, ça c'est un mot hyper important, les juntas c'est les assemblées. Alors, tout va se décider en assemblée dans les régions autonomes. Alors, on a des assemblées dans les communautés, les bases d'appui zapatistes, c'est donc les villages qui sont zapatistes. Et puis après, on a des juntas dans le municipio autónomo. Alors municipio, on n'a pas de traduction non plus. On pourrait appeler ça chef de canton, plus ou moins. Mais il n'y a même plus de canton ici, alors ça ressemble à plus rien, quoi. Bon, enfin bref, un ensemble de villages. Et puis après, on a des assemblées qui montent à la junta y buen gobierno. Il y a cinq caracoles dans le Chiapas. Le Chiapas, c'est à peu près un tiers de la France. Donc on a Obentic, très près de San Cristóbal, Morelia, Roberto Barrios, Garrucha, Realidad, qui sont un peu dans la montagne, un peu dans la zone palenque, un peu de jungle, et dans la zone des Cañadas, qui est jungle montagneuse, direction frontière Guatemala, quoi.
Par rapport à la création de ces caracoles, ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment du soulèvement, il s'est passé quand même quelque chose de, très important, c'est qu'ils ont récupéré les terres aux gros propriétaires. Ils ont occupé les terres. Et c'est sur ces terres-là que les communautés, les municipios et les caracoles s'appuient aussi, que l'organisation s'appuie, quoi. C'est sur des terres qu'ils ont récupérées au moment du soulèvement. Et ça concerne des milliers d'hectares, quoi.
Il y a ces terres qui ont été récupérées, plus d'autres endroits qui existaient déjà. Enfin, oui, complètement oublié. Ils ont complètement, enfin, ils ont pris plein de terres, quoi. Tant qu'à faire. Ils les ont gardées. Et depuis, bah, après, il y a eu, c'est comme si une région s'écartait de la France. Nous, on dit, bon, allez, c'est bon. Nous, on se considère français, mais l'État français, ses lois, tout ça, on n'a plus rien à foutre. Donc, on se fait notre truc chez nous. Donc, forcément, comme à la ZAD, eh ben, forcément, il y a des militaires. A commencé une période de ce qu'ils ont appelé une guerre de basse intensité. Beaucoup plus de basse intensité qu'à la ZAD, où c'est plutôt tout violent d'un coup. Où là, eh ben, alors du coup, ça, beaucoup de routes ont été créées pour laisser passer les convois militaires, pour aller surveiller les gens. Et
construction de casernes.
Construction de casernes, enfin bref, contrôle vraiment de zone. Parce que toute cette jungle-là, direction Guatemala, c'était très très difficile d'accès, quoi. Enfin, il y a eu un progrès en 25 ans au niveau accessibilité qui est assez formidable, quoi. Mais parce qu'il fallait que les militaires puissent passer, quoi. Ça, et puis vu que les apatistes ont eu un soutien extérieur, qu'il y a eu des brigades d'observation, enfin les observateurs des droits de l'homme, parce qu'évidemment on croira plus un blanc qui se plaint de la situation qu'un indigène, parce qu'un indigène on le met en prison et puis on s'en fout. Tandis que la petite française qui va là-bas, qui va vivre avec eux, ça a quand même un peu plus d'impact, quoi. Parce que nous sommes dans une société raciste, tout simplement, quoi, qui n'est pas avouée, mais qui existe quand même. Quand il y a eu un peu trop de pression internationale, l'armée s'est un peu calmée au niveau pression, vol d'hélicoptères, tout ça. Mais alors du coup, se sont créés des groupes paramilitaires, énormément de groupes paramilitaires. Et bon, après, les groupes paramilitaires, c'est simple, hein, c'est les militaires qui les forment. On va prendre les gens du village à côté, on les arme, on leur donne deux, trois trucs. Et puis après, c'est simple, parce qu'au vu de la nation et du monde, on dit, bah, c'est des problèmes interethniques. C'est les indigènes entre eux, là, ils se cherchent la castagne. C'est beaucoup plus simple à justifier, quoi. Voilà, donc, eux, sous toute cette pression, et pas que cette pression, parce qu'il y en a une autre qui est encore plus insidieuse, on construit leur autonomie tant bien que mal, qui se situe au niveau de la justice, de la production, au niveau de l'école, de l'enseignement, au niveau de la santé. Voilà, et tout ça s'est construit petit à petit, et là, en 20 et quelques années, beaucoup de choses se sont construites. Une autre stratégie anti-insurrectionnelle, qui n'a pas été l'armée, ça a été l'aide sociale. Et l'État a récupéré énormément de gens en créant les allocations familiales, la CAF. Voilà, alors des programmes qui s'appelaient Progressa, alors on va donner 2000 pesos, c'est pas grand-chose 2000 pesos, mais tous les 3 mois à des femmes qui vont en faire la demande. Mais ça veut dire que si elles font la demande, elles rentrent dans un registre civil. Parce qu'en fait, tous ces gens-là qui étaient dans des coins reculés, ils n'étaient pas forcément enregistrés, existants au niveau administratif. Alors déjà, on sait où ils existent, on sait qui... Et voilà. Et autrement, autour de San Cristobal, il y a des villages qui sont toujours dans les guides touristiques, oui, villages indigènes, tout ça, qui ont reçu mais un fric pas possible, et pour acheter des moellons pour les maisons, pour acheter des tôles pour les toits. Des cadeaux comme ça, voilà, cadeaux, comme ça, bah, t'arrêtes de t'organiser. Et il y a des endroits où ça a marché. Et c'est comme ça qu'on a financé des mafias, par exemple, des mafias qui revendent la drogue, tout ça, San Cristobal, maintenant. Enfin bref, ça a aussi créé le chaos, mais ça leur a permis de contrôler une partie de la population. Et autant les apatistes ont énormément avancé de 94 jusqu'à nos jours, mais ils ont perdu des gens en route. Ils ont perdu des gens parce que l'aide sociale, et puis aussi, on leur a proposé à un moment, mais attendez, si vous voulez un droit à la terre, on vous donne un papier de propriété privée. Et procéder, c'était, on vous enregistre, et puis comme ça, c'est à vous la terre. Après, vous en faites ce que vous voulez, personne décide. Et comme ça, on a perdu énormément de gens aussi, dans la lutte. Mais d'autres sont évidemment restés avec une patate incroyable et à continuer.
On a vachement individualisé les problèmes, et le côté communautaire, on n'a pas dit forcément, quoi. Et donc, c'est pour dire aussi que c'est assez complexe sur place, parce que dans une même communauté, on va voir les gens organisés zapatistes qui refusent toute aide de l'État et qui continuent à travailler ensemble, et puis des non-zapatistes. Et ça, ça cohabite. Des moments plus ou moins bien, mais ça cohabite. Donc il y a des autorités zapatistes dans un village, en fait, il y a deux autorités. Voilà. Il y a les zapatistes et les non-zapatistes. Et ça, c'est dans énormément de communautés, ça c'est avec le temps, ça a évolué dans ce sens-là. Après, là où il y a encore des communautés unies, bon, c'est ce qu'on nous a dit parce qu'on n'y est pas allé dans celle-ci, mais c'est là où ils ont récupéré justement ces fameuses terres, dans toutes les cañadas, là où ils sont les plus présents en fait. Voilà.
Il y a peut-être ce terme autorité, là, on appelle le terme autorité parce qu'ils appellent ça comme ça, la autoridad, c'est les responsables politiques, ceux qui gèrent. Mais en fait, ça ne veut pas dire que ce sont les chefs de quelque chose ou de qui que ce soit, c'est pas en...
Ouais, chez les zapatistes en tout cas.
Oui, voilà, juste préciser ce terme. En fait, les autorités vont être désignées. Au niveau de la commune, au niveau de la municipalité autonome et au niveau de la région, ils vont être désignés. Et il y a un système de rotation absolument extraordinaire et qui change selon la région où on est. Alors des fois c'est tous les ans, des fois c'est tous les trois ans. Mais, et ça c'est très indigène, ça date de l'histoire ancienne, ça. C'est les gens vont donner un an de leur temps pour s'occuper d'être le responsable de la police communautaire, ou le responsable de l'entretien du village, ou le responsable de ci, ou le responsable de ça. Ils donnent, et puis après ils tournent.
C'est le système des cargos, des charges.
C'est des charges.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une doctrine, c'est des us et coutumes, comme ils disent, parce qu'en fait, d'une région à l'autre, il faut savoir que les caracoles ont aussi été pensés par rapport à la langue qui est parlée. Il y a une région qui est plus tzotzil, d'autres qui sont plus teltal, d'autres plus torolaval ou tchol. Et donc la langue est vraiment centrale par rapport à leur identité. Et après, par rapport au fonctionnement des charges, dans tel caracol, les gens vont être nommés sur 3 ans et ils vont être là 15 jours par mois ou une semaine par mois au caracol. Et ça tourne en équipe, parce que, y compris durant la durée de leur charge, ils ne sont pas en permanence, ils n'assument pas en permanence leur charge. Donc pour une même charge, en fait, ils vont être 3, 4 ou 5, ça dépend du type de rotation qu'ils ont, parce qu'ils sont tous paysans, ils travaillent tous la terre. Donc s'ils sont nommés au caracol, ils viennent d'une communauté qui va être à 3, 4, 5 heures, parfois 5 heures de transport. Donc pendant une semaine ils vont être au caracol et pendant les 3 autres du mois ils vont être dans leur communauté. Et tous ces périodes où les gens assument leur charge, tout ça c'est pas un bloc, un monolithe qui est décidé d'en haut, c'est chaque caracol qui a décidé comment ils allaient essayer de fonctionner. Et ils se remettent en question en permanence. Voilà. Et à Oventic, quand vous allez dans un caracol que vous rencontrez un conseil devant le gouvernement, vous repassez la semaine d'après, ça ne sera pas les mêmes. Mais par contre, ils seront au courant des sujets. Il y a une transmission. Cette rotation, du fait du temps aussi, du temps qu'ils prennent à parler, ils parlent tout le temps. Quand ils sont en charge, ils assument. Alors, voilà. Alors, parfois, ils somnolent. Mais vu qu'ils sont une quinzaine, ça continue, quoi. Et c'est vraiment lourd à assumer, quoi. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat, parce que ces gens-là qui sont arrivés au caracol, ils sont là pour 1 ou 2 ans, mais c'est la communauté qui les a envoyés aux municipiaux, et puis c'est aux municipiaux qui les a envoyés au caracol. C'est pas des gens qui sont... Enfin, ils assument la charge pour la communauté, parce que ça prévaut sur leur vie, quoi. Voilà. leur vie individuelle, comme on n'entend pas ici, quoi. Ici, il n'y a pas, il y a un rapport différent qui est culturel, quoi, qui a été entretenu de par leur histoire.
Et ils ne font pas carrière, parce qu'ils ne sont pas payés pour ça.
Il n'y a pas de rémunération.
Il n'y a pas de rémunération. On va payer leur, on va payer la communauté, va assurer leur voyage. Leur voyage du village jusqu'à la Junta de Buen Gobierno, parce qu'il faut payer le bus ou des choses comme ça. Il va pouvoir s'organiser des fois que le village se réunit pour aller bosser les terres de celui qui est en charge. Mais enfin, je veux dire, il n'y gagne rien. Il n'y gagne rien, mais il va l'accepter parce que ça va tourner. Et puis cette année, c'est lui, et puis l'année prochaine, c'est son voisin, et puis etc. Donc en fait, il n'y a pas du tout le côté carriériste et responsable de penser à la place des autres qui existe chez nous. Ça n'a absolument rien à voir. Et tout se décide en assemblée. Ça n'existe pas, les gens là-bas qui disent « moi je », comme nous, on entend à la radio tout le temps, quoi. « Moi je », ça n'existe pas. Et c'est nous, c'est tout le temps.
Et ça, c'est aussi entretenu de par le fait que... Rien que d'être base d'appui, simplement base d'appui, Jean-Baptiste, tu dois tant de jours à l'organisation. Dans un jour de travail, il faut que tu ailles un jour ou deux jours, ça va dépendre des moments, ça va dépendre des caracoles. Il faut que tu donnes ce temps-là à l'organisation. Donc, et ça, dès le départ, nous, quand tu arrives à dans un caracol, il va y avoir des gens de tous âges, des anciens, des envoyés, et puis des enfants. À partir de 14-15 ans, ils ont grandi là-dedans. Ils font des tâches communautaires. Souvent, ça va pas passer par, ça va commencer par l'entretien. Mais en fait, faut assumer. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe, quoi. Et c'est ça qui est important. Et du coup, en pratiquant ça et en le maintenant, eh ben, ils se rendent compte qu'ils peuvent justement s'auto-gouverner, quoi. Qu'ils n'ont pas besoin de cet État qui leur tape dessus, quoi.
Ils sont prêts pour voir.
Voilà.
Et oui, parce qu'eux, ils ne veulent surtout demander à rien à l'État. Ils voulaient, au début, ils ont essayé de demander juste une reconnaissance de leur existence et de leur organisation en tant que communauté indigène. Ça n'a pas marché. Ils ont toujours dit, non, on ne veut pas les miettes, hein, on ne veut pas, justement, cette aide sociale, tout ça, ils savent très bien que c'est des miettes. Beaucoup s'y sont laissés prendre, mais ceux qui ne s'y sont pas laissés prendre ont une patate infernale. Et là, on a rencontré l'année dernière des gens qui ont 25 ans, et qui ont grandi avec, du coup, ils sont nés avec la révolution zapatiste, mais on hallucine. Moi, la première fois que j'y suis allée, c'était en 1995, et la dernière fois, c'était en 2017. Et en 95, les femmes, elles sortaient à peine de leur maison. Alors pourtant, il y avait déjà des réunions, il y avait la loi des révolutionnaires des femmes. Voilà, parce qu'on revendique une culture ancienne, indigène, ancienne, d'avant la conquête. Mais on l'interroge en même temps qu'on la revendique. C'est-à-dire que c'est pas parce que traditionnellement, je suis une femme, donc je reste à la maison, que là, dans mon organisation, je vais rester une femme qui dit rien. Voilà, donc une récupération de la tradition en l'interrogeant et en l'ajustant, quoi. Alors, il y a 25 ans, les femmes, on les voyait pas trop, elles mangeaient derrière les mecs, les assemblées, il y avait des assemblées avec tout le monde, mais les femmes n'ouvraient pas trop. Et là, en 25 ans, mais c'est un truc de fou. C'est dans la Junta de Buen Gobierno, il y en a qui dirigent les débats, enfin, une avancée phénoménale. Les femmes qui sont dans la rue, village, qui sortent, quoi, qui prennent part à leur vie, qui s'expriment, les jeunes, des jeunes de 25 ans, moi, la première fois que je suis arrivée dans un village, il n'y avait pas moyen, on m'appelait maestra, maîtresse, et je leur disais, ou maîtresse de rien du tout, mais maestra, parce que moi j'étais blanche, quoi, et parce que du coup j'étais plus forte. Alors ils étaient organisés, hein, ça faisait un moment qu'ils en discutaient, mais ils n'avaient pas grandi avec ça, quoi. Donc c'est pas pareil de grandir avec une idée, de la vivre, et d'adopter un discours, quoi. Ça n'a rien à voir. Et s'il y avait quelqu'un de malade, eh ben, on allait me le montrer à moi, qui, bon, franchement, à part mettre de l'argile partout, quoi. Voilà, alors qu'eux, ils avaient des médecins qui connaissaient plein de trucs sur les plantes locales, voilà. Et bien ça, c'est fini. Moi, il n'y a plus personne qui m'a jamais appelé maestra, là, en 2017, en 2000... Une assurance qui a été prise dans les rues de San Cristóbal aussi, en ville. quand on y allait au début, alors les indigènes ils étaient comme ça, quoi. Là, il n'y en a plus un qui baisse la tête, quoi. Et même ceux qui ne sont pas apatistes, je veux dire, tout a gagné. On n'a pas parlé de peut-être cette influence que ça a donnée, de montrer que oui, on existe, on peut être digne et vivre de façon autonome et librement. Mais dès le départ, pendant au début des discussions des accords de San Andrés, ils ont convoqué le premier forum indigène en 1996, où ils ont discuté de la situation des femmes, des us et coutumes, de la terre, et plein de tables de discussion où ils ont invité des indigènes de tout le pays. Et de ce premier forum est né le CNI, Congrès National Indigène, qui existe partout dans le pays maintenant. Et donc ça essaie mon organisation, et puis maintenant ils se rencontrent régulièrement, tout le pays, et ils discutent, et du coup, ça devient une force. Sans qu'il y ait de dogme. Enfin, des fois, les gens ils parlent de zapatisme, ça n'existe pas le zapatisme, il n'y a pas de dogme. La seule idée valable, c'est faites ce que vous avez décidé de faire de façon autonome et ensemble. Après, c'est pas à moi de te dire comment toi, dans le nord du Mexique, qui n'a pas du tout la même vie, la même géographie et la même culture, comment tu vas vivre. Ou comment toi, en Italie, comment tu vas faire. Voilà. Ça, c'est vraiment le respect de la parole communautaire, où qu'elle soit, quoi.
Par rapport à la loi révolutionnaire des femmes qui a été appliquée avant le soulèvement, il y a quelque chose qui est assez important aussi, c'est qu'ils ont interdit l'alcool dans les communautés organisées. De par leur organisation, le fait qu'ils s'organisaient, mais aussi pour le respect, justement. Parce que l'alcool a fait des dégâts depuis la colonisation, ça fait partie de leur héritage de 500 ans de lutte aussi, quoi. Voilà. Alors ici, je ne sais pas si ça prendrait, mais en tout cas, eux, ils ont réussi. Voilà. Et sinon, par rapport au Conseil national indigène qui est aujourd'hui très, très présent, pour illustrer aussi ce que ça a pu donner ailleurs dans le Mexique, il y a une ville dans le Michoacán qui s'appelle Chiran, où depuis 5 ans, c'est géré, ils ont remis en place leurs us et coutumes, ils ont interdit les partis politiques. Voilà. En disant, vous ne servez qu'à nous foutre la merde, on ne veut plus de vous. Il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus de police de l'État. Ils assument leur police communautaire. C'est une ville qui fait plusieurs milliers d'habitants, hein, donc un bon territoire. Et jusqu'à maintenant, ça tient, quoi. Voilà. Après, il y a San Juan de Tula, où ils ont essayé aussi de faire ça. Là, par contre, ils s'en sont pris plein la gueule, quoi. Et c'est des dizaines de morts sur la communauté depuis qu'ils sont en lutte. Mais il y a de plus en plus d'organisations communautaires qui montent au créneau en disant « Nous, on veut appliquer nos us et coutumes. » Dans l'état de Oaxaca, il y a énormément de villages où il y a les autorités de l'État et les autorités indigènes, traditionnelles. Voilà, c'est traditionnel, ils appellent ça. Voilà. Et tout ça, ça se nourrit, quoi. Voilà. Et le mouvement zapatiste a vachement soutenu et permis ce développement, quoi.
Voilà. Et qui est encore enfin je veux dire, c'est pas fini, c'est pas ils ont fait ça, c'est fini, quoi. Bah, Elise, elle pourra peut-être nous parler un moment d'une rencontre qu'il y a eu à Morelia, donc un caracol, une rencontre de femmes. Quelques mois auparavant, il y avait une rencontre sur la science, sur l'interrogation par rapport à la science, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on en veut pas, enfin je veux dire, c'est en ébullition tout le temps. Voilà, donc c'est vraiment un processus qui avance et puis qui montre des avancées, mais hyper rapides, quoi. Maintenant, les gens de 25 ans, ils parlent, ils sont super patates, ils savent très bien ce qu'ils veulent, ils font gaffe à ce qu'ils... Alors, c'est intégré, quoi. C'est pas un discours appliqué, c'est intégré, quoi.
Après, pour pas non plus... le tableau est quand même vachement noir au Mexique. L'année dernière, il y a eu 26 000 homicides. Donc tous les ans, depuis 15 ans, c'est plus de 20 000 homicides sur le pays en général. la pression des narcos, la pression des industriels, des industries minières, beaucoup, enfin tout ce qui est ressources naturelles, il y a d'énormes pressions sur les communautés. Là, depuis le premier trimestre, on est déjà à plus de 7000. On arrive aux élections présidentielles, donc ça fait monter aussi la pression. Enfin, 7000 morts, voilà, sur un trimestre, nous, je sais pas
on en a. De morts violentes, quoi. Enfin, ouais. Pas de cancer. Quoi.
Mais pour dire que il y a une violence omniprésente et qui est vraiment terrible. Il y a des endroits où, du jour au lendemain, les narcos ou une mafia ou un groupe paramilitaire va arriver, du jour au lendemain, puis personne ne sort le soir. Parce qu'ils ont eu un mot dans les boîtes aux lettres, ils savent que si tu sors, tu passes. Et le lendemain, il y a souvent. Et pour donner le signal, ces groupes paramilitaires ou narcos, quand ils arrivent, pour donner le signal, eh ben, ils vont choper une paire de gus un peu activistes, et puis ils vont prendre un bras ou une tête sur la place, pour que le lendemain, les gens ils sachent que. Voilà, il faut se tenir à carreau, quoi. Et ça, c'est assez. Alors, quand on y va en touriste, tu peux très bien, tous les tours qui sont organisés pour aller visiter les chouettes coins du Mystique, tu ne vois pas ça. Mais en tout cas, quand tu es dans les villages, et surtout dans les campagnes où il y a encore ces traditions, ces pratiques culturelles ancestrales, et ben ça, c'est terrible, quoi.
Après, il y a quand même. Il y a dans les villes aussi, la ville de. Alors, on est jamais d'accord sur Guadalajara, on va dire.
Ouais. Mais bon, dans les villes, c'est encore autre chose. Mais dans les villes, le côté communautaire est déjà vachement disloqué, quoi.
Enfin bref, un groupe narco, gouverneur, tout ça, ça marche ensemble. Peut vous mettre une ambiance de terreur du jour au lendemain, quoi. Après, justement, cette ambiance des terreurs, sur les communautés zapatistes, on en est plus ou moins gardé. Alors là, ils auront d'autres problèmes, des paramilitaires, des choses comme ça. Mais le narcotrafic et tout ce que ça implique essayent de rentrer, de prendre du pouvoir, sauf qu'ils ont des gens organisés en face d'eux avec une vie communautaire qui partage. Et du coup, il y a énormément plus de résistance. Et s'il y a 25 ans, on prenait plus notre vie en allant chez les zapatistes parce qu'il y avait les militaires, maintenant, c'est peut-être là qu'on va être le plus protégé de l'état des narcos, quoi, finalement. Quoi. Parce que justement, il y a une organisation. Après, il y a plusieurs façons de rentrer aussi, d'établir le chaos, quoi, dans un pays. Hein. Il y a aussi les évangélistes. Les évangélistes qui ont un discours de. Bah oui, bah vous êtes malheureux, il y a un gouverneur, mais le gouverneur c'est Jésus, c'est bon, après Jésus il t'aidera dans l'autre monde, si Jésus il t'a dit qu'il fallait que tu vives comme ça, tu vis comme ça, quoi. Et ça, dans toute l'Amérique centrale, c'est une catastrophe, quoi, et petit à petit, ça rentre de plus en plus dans le Chiapas, et ça a beaucoup divisé des villages entiers aussi, ce côté religion. Il y a aussi des choses absolument magnifiques que nous, voilà, touristes au Mexique... Alors, autant les indigènes n'existaient pas il y a 25 ans, mais alors d'un coup, ils existent, il y a des grandes affiches publicitaires quand vous arrivez à Mexico, allez visiter le Chiapas indigène, tout ça, alors d'un coup, ça devient un argument publicitaire. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va construire des villages écotouristiques. Alors, écotouristique, ça veut dire qu'on va virer une communauté par la terreur, mais on va créer un truc avec des trucs un peu bio, Et voilà, et après on va faire la promo, et après on va vous faire le discours en France, oui, mais là c'est écotouristique, c'est éco-responsable, et c'est éco-machin. Et sauf que non, pas du tout. Des fois, il y a eu des luttes comme ça, dans les montagnes bleues, par exemple, enfin, dans plein de régions du Chiapas, où on a expulsé des communautés, quoi. Mmh. Ou alors, il y a aussi le café équitable. Moi, je suis prof d'espagnol, j'avais une double page sur le commerce équitable dans un livre d'espagnol de... je ne sais plus quelle classe, seconde peut-être, sur la Union de la Selva. Alors la Union de la Selva, l'Union de la Forêt, c'est une productive, coopérative de café, et qui fait du commerce équitable. Sauf que c'est juste des paramilitaires. Après, petit étudiant français, il ne le sait pas que c'est paramilitaire. Mais si on va là-bas, on sait que c'est paramilitaire. Mais sauf que, ben voilà, c'est le discours, commerce équitable. Donc, il faut toujours un peu s'en méfier, quoi, de ces éco-machins, éco-trucs. On ne sait jamais trop ce que ça cache. Et il se trouve que nous, ce qu'on a vécu, et peut-être après, il faut qu'on fasse la question, j'en sais rien, mais ce qu'on a vécu, nous, la dernière fois qu'on y est allé, c'était un chaos incommensurable.
Pour nous.
C'était, avant, c'était simple. Avant, il y avait les gentils, c'était les apatistes. Il y avait les méchants, c'était le parti, le parti révolutionnaire institutionnalisé, ce qui est quand même un nom assez formidable. Et voilà, c'était assez clair quand on était d'un côté ou de l'autre. Et là, mais les gros... Alors, les partis se sont multipliés, mais en fait, à partir des mêmes gens, finalement, quoi. Et ils se battent entre eux. Plus les groupes paramilitaires, qui des fois ont tel discours et telle action qui... Enfin, on ne sait même pas que c'est des paramilitaires. Des fois, on croit que c'est des groupes révolutionnaires. Par exemple, Parti, Fronde, Libération...
France Socialiste de Libération Nationale.
Ouais, voilà. Alors eux, font... voilà, super. Ils vont mettre des affiches, ils vont faire des manifs pour le partage de terres pour tout le monde. Et puis dans un autre endroit du Chiapas, hein, 50 km plus loin, ils vont piquer les terres d'un village organisé et assassiner un gars et les maintenir sous la terreur avec les armes. Donc, c'est un chaos, c'est un énorme chaos, quoi. Et un chaos qui est pas créé artificiellement, quoi, qui est vraiment construit, quoi. Par les narcos, par le pouvoir qui va que ça lui échappe, etc., etc., quoi.
Arrête. Les partis politiques sont vraiment très... En plus, avec les échéances électorales, ça ressort énormément, quoi. C'est le parti écologiste, le parti PRD, le parti de gauche, entre guillemets, le parti de droite. Ils sont tous mouillés dans des histoires. Il n'y a rien qui vaut, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'à des endroits de Chiran, mais il y a eu un autre village, je ne sais plus où, ils disent, non, stop, dehors, quoi. On n'en veut pas de vos histoires. Il y en a marre. Ça... Parce qu'en fait, il y a toujours, au moment des votes, il y a aussi une tradition, c'est, il va y avoir les élections, le gars, il passe, il distribue un bicheton à tout le monde, et tout le monde va voter pour lui, quoi. C'est l'achat de voix, quoi. C'est des pratiques...
C'est normal.
Voilà. Tu vois, et la peinture sur ton mur, on te file le bicheton. Les gens, ils en ont. Parce que quelque part, ils attendent pas vraiment d'en haut, quoi. Ils sont assez lucides là-dessus. Donc, autant prendre. Il y en a énormément pour qui les miettes conviennent, quoi. Et ça fout un bordel monstre. Monstre. Ouais.
Et à côté de ça, il y a les apatistes, ceux qui restent, qui sont fermes, indéterminés, qui n'acceptent rien, qui continuent leur organisation.
Pour illustrer aussi l'image un peu décalée entre justement des partis où le pouvoir étatique et les apatistes, pour énormément de conflits et agraires en particulier, les gens ils vont pas aller au tribunal de l'État, ils vont aller demander à la junta de statuer, quoi. Comment on fait, quoi? Ils vont voir les apatistes parce qu'ils savent qu'ils sont plus justes, quoi. Ça c'est des retours. Après, par rapport à la santé, les femmes, où elles vont aller si elles ont un problème? Elles vont aller dans la clinique du Caracol. Elles vont pas aller se faire traiter comme une merde à l'hôpital de l'État, quoi. Ça, c'est plus en plus. Et les apatistes, là-dessus, c'est pas parce que les gens sont pas apatistes qu'ils vont pas ouvrir la porte, quoi. Mais par contre, être dans l'organisation, ça demande un autre pas. Voilà.
Et qui demande un effort, quoi. C'est jour à donner. C'est pour ça que tout le monde n'est pas apatiste. Parce que bah, la CAF, finalement, c'est pratique, quoi, hein, l'allocation familiale. Mais toujours est-il qu'au Mexique, il est encore très très fréquent d'aller accoucher dans une clinique d'État. Vous allez accoucher et puis vous revenez, vous avez plus de trompes, quoi. On a fait une ligature des trompes sans vous demander votre avis, quoi. Parce que vous êtes indigène, c'est bon, vous n'allez pas nous faire 15 enfants, quoi.
Et ça, encore...
Et aujourd'hui encore, on en a entendu parler, là, dernièrement, quoi. Et voilà, c'est zéro respect, et surtout si t'es indigène, quoi. Chez les apatistes, on respecte les gens, quoi. Et c'est rigolo, comme eux, ils vont tous chercher ou arbitrage, ou aide chez les apatistes en cas de besoin, quoi.
Bon, peut-être... On a vu le déroulement là, global, et puis on peut peut-être arrêter là pour un quart d'heure, 20 minutes, et reprendre.